Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Bonnin.
Prolongation des discussions à Bougival. Elles devaient se refermer cette nuit pour nous, mais les délégations poursuivent leur travail. La santé scolaire, gage de réussite. Le gouvernement organise des visites médicales dans les collèges. Ce matin, elles avaient lieu à Caméré. En métropole, consternation après l'annonce de la mort d'Olivier Marleix. Le député LR s'est suicidé dans sa maison d'Eure-et-Loir. Rencontre dans quelques heures entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Le président américain veut faire valider sa proposition de cesser le feu. Sinon, il lâche le dossier, a-t-il prévenu. Dans la page de sport, nous ferons le point sur les dernières performances des Calédoniens aux Jeux du Pacifique. C'est l'avant-dernier jour de compétition. Et puis sur le Tour de France, pas de changement au général au terme de la troisième étape marquée par la chute du sprinter Jasper Philipsen, contraint à l'abandon, clavicule fracturée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal et notez que l'on s'intéressera à la saison des baleines dans le magazine Citoyen que l'on retrouvera dès la fin de cette édition. La province Sud a organisé une formation à destination des opérateurs du lagon pour proposer des excursions respectueuses des baleines et de l'environnement. Pour en parler, nous recevrons Tiffen Reed, chef de service à la 3DT, Patrice Plichon, responsable des gardes nature du Grand Sud et chargé du respect des règles d'observation, formateur également du programme Observer sans danger. Nous recevrons aussi Claire Garrigue, scientifique à l'IRD, spécialiste des cétacés. Enfin, deux opérateurs de tourbaleines répondront aussi à nos questions, Gilles Watelot et Cyril Kotika. Magazine spécial Observation des baleines à retrouver donc dans le magazine Citoyen dès la fin de ce journal. Le suspense se poursuit concernant les discussions sur l'avenir institutionnel qui se déroulent à Bougival, Elisabeth Noir.
Oui, le suspense parce que la consigne de ne pas communiquer est respectée scrupuleusement par les différentes délégations politiques et que rien ne sort de ce huis clos dans l'hôtel Hilton de Bougival. Nous avons juste eu confirmation de la poursuite de ces discussions. Elles devaient à l'origine se terminer lundi soir hors de Paris et il était envisagé que le président de la République vienne clôturer ce sommet avant de partir en visite d'État en Grande-Bretagne. Mais dans la nuit, on a appris que finalement les discussions allaient se poursuivre jusqu'à vendredi. Alors, on peut penser que c'est plutôt bon signe que les choses avancent, puisque les partenaires politiques ont des choses à se dire et qu'elles continuent à chercher une solution, voire un accord définitif. Ces négociations ont débuté jeudi dernier. On sait qu'elles se déroulent depuis sous différents formats, en bilatéral ou en plénière. Et hier soir pour nous, toujours d'après nos informations, les discussions se déroulaient entre les partisans de la France et les indépendantistes, avec la présence de l'éveil océanien, mais sans celle de Calédonie Ensemble. Les représentants de l'État ne participaient pas non plus à cette séquence, alors qu'ils sont nombreux à Bougival. Outre le ministre des Outre-mer et plusieurs membres de son cabinet, il y a Patrice Faure, l'ancien haut-commissaire, désormais directeur de cabinet du président de la République, mais aussi Éric Thiers et plusieurs membres du cabinet du Premier ministre, et aussi par exemple Rémi Bastille, l'ancien secrétaire général, qui avait été membre de la mission mise en place en mai 2024 par Emmanuel Macron. Tous ces représentants de l'État sont sur place, mais à ce stade, ils ne sont pas associés aux négociations. Ce sont les partenaires calédoniens, partisans de la France et indépendantistes, qui cette nuit pour nous ont discuté directement entre eux. Toujours d'après nos informations, ces négociations sont désormais sur la base de la recherche d'un accord définitif sans période transitoire et sur la base du résultat des trois référendums dont le président de la République a acté la validation. Mais encore une fois, c'est le plus grand secret, la plus grande confidentialité qui entoure ces discussions qui se poursuivent toujours à Bougival et qui, aux dernières nouvelles, devraient durer au moins jusqu'à vendredi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier et 89% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils approuvent la discrétion totale qui entoure les négociations entre groupes politiques qui se déroulent actuellement à Bougival. Ils sont 11% à désapprouver cette discrétion. Voici notre question du jour. Êtes-vous déçu qu'il ne puisse pas y avoir de feux d'artifice sur le territoire pour le 14 juillet? Si vous êtes déçu, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Des nouvelles du programme de vol d'Air Calin, perturbé en raison de la panne sur l'un de ses avions, panne désormais réparée. L'appareil a pu quitter Tontouta hier soir pour rallier Singapour. Il effectue actuellement le vol retour vers la Nouvelle-Calédonie, où il doit se poser en début d'après-midi. Il transporte les passagers restés en souffrance à Singapour depuis 2 jours. Une journée pour rendre hommage à la police nationale. Une cérémonie s'est déroulée ce matin à l'école de police de Normandie, en présence, Léana Colombo, des autorités civiles et militaires.
Oui, toute la journée, ils sont sur le front auprès de la population. Il était donc normal de célébrer les forces de l'ordre aujourd'hui. Ils étaient nombreux, familles et proches, à s'être rendus à Normandie pour leur rendre hommage. Marjorie Ghisoli, directrice de la police nationale en Nouvelle-Calédonie, souligne l'investissement dont font preuve ces policiers au quotidien.
Ça représente pour nous tous les policiers la fierté de l'être. Cette cohésion bien nécessaire et bien importante dans nos métiers et dans cette belle famille de la police. Et puis c'est aussi un moment où on pense à tous nos collègues qui sont décédés, blessés, et on en a évidemment, et malheureusement en Nouvelle-Calédonie et à Nouméa. Je rappellerai les derniers blessés graves que nous avons eus pendant les émeutes. Mais c'est vraiment un moment de rassemblement. De toute notre police, de toute la police nationale.
À cette occasion, 19 policiers ont été récompensés, par exemple, en raison de services exceptionnels rendus. C'est le cas du brigadier et chef Pierrick Masson. Il est également au service territorial de la sécurité publique à Nouméa depuis 35 ans. Il témoigne de son engagement.
C'est une fierté et un plaisir. 35 ans, j'ai commencé par le service militaire en 1989, service militaire obligatoire dans la police. On a été la première promotion. Et ensuite, j'ai réussi le concours de gardien de la paix au cours de parcours militaire dans la police. Et voilà, maintenant aujourd'hui 35 ans, une petite pensée pour mon père, qui était dans la police à un moment, il a passé 25 ans dans la police. Et aujourd'hui, j'ai une pensée pour lui.
Durant la cérémonie, le secrétaire général du Haut-Commissariat Stanislas Alfonsi a notamment lu une lettre du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.
Il est 11h37, restez bien avec nous. Dans un instant, après la première pause de ce journal, on se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Ce jeudi 10 juillet, le Nord vient à votre rencontre sur la place des Cocotiers. Artisanat local, gastronomie, marché agricole et de la mer, produits horticoles, groupes de danse et de musique, les communes du Nord vous réservent de beaux partage et des saveurs authentiques. Le jeudi du centre-ville, l'authenticité du Nord, c'est ce jeudi 10 juillet de 8h à 19h, place des Cocotiers. Info sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Le management vous intéresse? Alors rejoignez l'IAE de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et boostez votre parcours avec notre master MAE, Management et Administration des Entreprises. Formation initiale ou reprise d'études, préparez-vous aux défis du monde des affaires et à l'international avec des intervenants universitaires et des professionnels experts. Candidatez en ligne du 7 au 18 juillet pour rejoindre notre master MAE à la rentrée de septembre. Info pratique sur iae.unc.nc.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Une visite médicale pour les élèves de 6e du collège de Caméré. Dans le cadre de sa compétence en santé scolaire pour le premier et le second degré de l'enseignement public et privé, le gouvernement déploie une politique de prévention de la santé en milieu scolaire, Kéline Daboicou.
Depuis le début de l'année, des visites médicales préventives sont réalisées dans les classes de 6e, en plus de celles effectuées dans les écoles maternelles et primaires dans les trois provinces. Hélène Pichot est chargée de mission santé scolaire au gouvernement.
Le gouvernement met en place un dispositif de santé scolaire sur l'ensemble du territoire et pour la scolarité de la maternelle jusqu'au secondaire. Pour ça, on travaille avec les provinces, les équipes médicales des provinces. Et donc des visites médicales et infirmières sont mises en place en grande section, en CE1. Et la nouveauté depuis cette année, c'est la 6e. Parce que la santé des enfants, c'est important, parce que c'était une promesse des élus de dédier une partie de la taxe sucre à des actions concrètes de prévention. Donc en voici la première application. Et parce qu'on sait très bien qu'à partir du collège, il y a des nouveaux enjeux en santé, notamment la santé mentale qui se joue, et il était important de suivre ces problématiques. L'enfant, à terme, va avoir un suivi sanitaire pendant tout son cursus scolaire. On aimerait pouvoir clôturer ce parcours-là par un entretien infirmier au lycée avec l'élève.
Ce matin, parmi les 329 collégiens de l'établissement, 90 élèves de 6e ont passé différents tests sanitaires. Les précisions de Sandrine Mollard, infirmière scolaire du collège de Caméry.
Alors, ils font des tests auditifs, ils font des tests visuels, ils font des tests orthophoniques, ils mesurent, ils pèsent, ils contrôlent aussi le bien-être de l'enfant et ils repèrent aussi des problèmes comme l'obésité, le stress, tous les problèmes qui sont essentiels pour la réussite de l'élève. C'est important cette visite médicale pour nous parce que ça nous permet de relever des problèmes de santé. Puis nous, on va accompagner l'élève au mieux après cette visite médicale et accompagner les familles également puisque actuellement sur Caméré, c'est vrai qu'on est dans une désertification médicale, donc c'est très important pour nous, pour la réussite scolaire de l'élève, qu'il soit le mieux possible.
Parmi les élèves de 6e qui sont passés à l'infirmerie ce matin, Gemma Wella en 6e C.
Je vais faire la visite médicale, mais d'abord, ils ont vérifié mon poumon, mon pouls, ils m'ont pesé, ils m'ont mesuré, ils ont regardé ma vue. Ça s'est bien passé, c'était bien, j'ai aimé. Elle m'a dit que mes résultats, c'était bien.
Les visites médicales préventives se terminent cette semaine pour les établissements de la province des Îles. Pour le Sud et le Nord, les visites se poursuivent jusqu'à la fin de l'année.
Et puis, comment sensibiliser les jeunes au handicap? C'est la question que se sont posées des étudiants en première année de BTS du lycée Anova Paita. Ils ont organisé une journée de cohésion à l'Arène du Sud. Une vingtaine de personnes en situation de handicap sont rassemblées. Elles viennent de Paita ou de l'association calédonienne Handicap et participent aux activités avec des élèves de seconde du lycée Anova. Le tout est coordonné par Gwenaëlle et Marie-Lys, qui sont toutes deux étudiantes en BTS services et prestations au secteur sanitaire et social.
C'est comme des mini-jeux paralympiques en fait, et on va mettre les personnes valides, donc les jeunes, à la place des personnes en situation de handicap. Ça veut dire qu'ils seront sur des fauteuils ou ils devront utiliser qu'un seul bras pour pouvoir faire les différentes activités.
Le but c'est que les jeunes ils puissent comprendre ce que ça fait de vivre avec un handicap au quotidien et qu'ils puissent vraiment se mettre à la place de la personne. Avant de faire ce projet, on a dû faire des recherches pour faire des constats et on a vu qu'il y a vraiment très peu de jeunes, il y en a qui connaissent le handicap mais ils n'arrivent pas à se mettre à la place des personnes qui sont de handicap.
Les jeunes ne sont pas assez informés sur le handicap, donc du coup ça va les rapprocher de ça et en même temps ça va leur permettre de découvrir certaines personnes et comment ils vivent aussi.
Jean Cromo-Pawiro, l'adjoint au maire de Païta en charge de la jeunesse et des sports et des loisirs, était également présent pour soutenir cette démarche des étudiants. Cette journée de sensibilisation se poursuit jusqu'à 15h à l'Arène du Sud.
À Radio Rythme Bleu, 11h42.
Un spectacle de danse les 25, 26 et 27 juillet prochains au Centre culturel du Mont d'Or. Après des mois difficiles en raison des émeutes insurrectionnelles, le danseur et chorégraphe professionnel Stan Cabarlouette n'entend pas baisser les bras. Il a monté un gala avec les élèves de son école, l'Avant-Scène. Il monte donc les Nuits de l'Avant-Scène, dont il est venu nous parler ce matin.
En fait, on avait l'ambition cette année de reproduire la Nuit des chorégraphes internationales, donc qui était un spectacle avec des danseurs internationaux pour sa 4e édition. Le contexte fait que c'est juste impossible. Et je me suis dit, pourquoi pas relancer la machine avec nos danseurs à nous, qui ont aussi beaucoup de talent, d'autant plus que j'ai des élèves qui sont présents dans mon école depuis plus de 10 ans, qui ont un niveau vraiment très très correct. Et pourquoi pas essayer de partir dans un spectacle sous forme de gala avec plusieurs différents ballets, plusieurs styles, plusieurs musiques, et de mettre les talents calédoniens à l'honneur, de les mettre à l'avant, à l'avant-scène. Et en fait, le résultat est quand même très convaincant.
Un programme éclectique mêlant danse moderne, classique, sur des styles musicaux très différents. Gala au cours duquel Stan Cabarlouette montera lui aussi sur scène.
Oui, c'est assez rare. Les années passant, on passe le flambeau aux plus jeunes, on va dire. Mais j'avais envie de vivre cette expérience avec mes élèves, de montrer l'exemple et puis aussi psychologiquement de mettre un coup de pied au derrière, si je peux dire ça comme ça, pour continuer d'avancer et essayer de retrouver un peu de sérénité dans le travail et puis aussi faire plaisir. Je l'espère au public calédonien de me revoir sur scène pour ce moment un peu unique.
Le danseur et chorégraphe Stan Cabarlouette a repris aussi des ballets créés par Thierry Boyer, son professeur de danse à Avignon, qui fut aussi son mentor, au même titre que Maurice Béjart. Stan Cabarlouette a fait partie des célèbres ballets Béjart pendant 7 ans. Le gala Les Nuits de l'Avant-Scène aura donc lieu les 25, 26 et 27 juillet au Centre culturel du Mont d'Or. La billetterie est ouverte sur e-ticket.nc. L'actualité dans la région avec les suites de la visite officielle effectuée la semaine dernière par le Premier ministre fidjien Sitiveni Rambuka en Australie. Elle va avoir des conséquences quasi immédiates, notamment en matière de sécurité. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Dans le cadre du partenariat qui les unit, l'Australie va injecter une somme équivalente à 800 millions de nos francs dans le renforcement du contrôle des conteneurs dans les ports de Lautoka et de la capitale Suva. Deux agents de la police fédérale australienne seront intégrés au sein de la police fidjienne et Canberra a également convenu de déployer deux conseillers techniques dont le rôle va consister à diriger la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de sécurité de l'archipel. Dans le cadre du même programme, le gouvernement australien va augmenter son aide bilatérale au développement des îles Fidji, aide dont le montant va s'élever à une somme équivalente à 2 milliards 650 millions de nos francs en 4 ans et qui va en porter le total à 33 milliards de francs entre 2025 et 2029. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h46. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal et se retrouver ensuite pour l'actualité dans le monde et en métropole. En métropole où la mort d'Olivier Marleix fait beaucoup réagir. À tout de suite.
RRB, 11h13. Infomag, Jean-François Bodin.
Votre enfant a grandi, il devient trop grand pour la crèche ou pour la nounou, mais il n'a pas encore l'âge pour la maternelle. Éducaire a la solution. Éducaire, une prématernelle idéale pour l'épanouissement et la sécurité de votre enfant. Avec son jardin de 500 mètres carrés, un grand nombre d'activités, une équipe professionnelle et diplômée. Appelez le 25 96 01 ou sur Facebook Éducaire NC.
Prêt pour un lavage parfait? Pour un linge impeccable, même à l'eau froide, Gamma prend soin de vos blancs et couleurs tout en leur offrant une fraîcheur intense qui dure longtemps. Gamma, le choix malin pour votre lessive. Découvrez nos nouveaux parfums de lessive Gamma dans votre magasin le plus proche. Gamma, le choix malin.
Du 30 juin au 27 juillet, Ubicotex lance son jeu ultra connecté. De nombreux lots high-tech à gagner. Des AirPods, une Apple Watch et un iPhone 16 Pro Max. Pour t'inscrire au tirage au sort, scanne le QR code en magasin ou rends-toi sur jouer.nc. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Plus d'infos sur le Facebook, Sac et Bon, NC. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Bodin.
Consternation dans la classe politique française et particulièrement sur les bancs de l'Assemblée nationale. La mort d'Olivier Marleix a suscité beaucoup d'émotions et de très nombreuses réactions. Le député LR, âgé de 54 ans, a été retrouvé mort chez lui dans le village d'Annette, en Eure-et-Loir, où il s'est suicidé. Gaulliste, fils de l'ancien ministre Alain Marleix. Et Olivier Marleix a notamment présidé le groupe LR à l'Assemblée nationale entre 2022 et 2024. Un homme d'engagement. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Figure influente et respectée à l'Assemblée où il était élu sans discontinuer depuis 2012, Olivier Marleix venait tout juste d'être nommé par Bruno Retailleau au sein d'un groupe de travail pour préparer les municipales de l'année prochaine. Il était un repère pour notre famille politique, écrit notamment le patron des Républicains qui souligne sa fidélité au gaullisme. L'émotion est très vive au sein du groupe LR dans lequel le député Vincent Jeanbrun siégeait à ses côtés.
Vous imaginez le choc, je crois, de tous les députés, quelle que soit la tendance politique, tant il imposait le respect, tant on voyait un homme solide, un homme laborieux qui travaillait ses dossiers dans les moindres détails. Notre famille politique perd une grande voix. Je pense que l'Assemblée nationale perd une grande voix, que la République perd un grand serviteur de l'État.
Implanté localement en Eure-et-Loir, où il fut maire de la petite commune d'Annette, Olivier Marleix avait notamment conseillé Nicolas Sarkozy à l'Élysée et Michel Barnier à Matignon. Parmi les très nombreux hommages, le Premier ministre François Bayrou fait part de son immense tristesse et Emmanuel Macron insiste sur la conviction d'Olivier Marleix et sur son amour du pays.
Nicolas Sarkozy a rendu un hommage appuyé à son ancien collaborateur. La mémoire d'Olivier Marleix a également été saluée dans les rangs de l'opposition. Jean-Luc Mélenchon a fait part de sa stupeur, parlant d'un adversaire politique honorable et respecté. Marine Le Pen a salué un homme rigoureux, engagé au service de ses idées. Les députés ont respecté une minute de silence à la mémoire d'Olivier Marleix. L'Assemblée nationale, où la proposition de Mathilde Panot fait beaucoup réagir. La chef de file des députés LFI propose de désarmer la police municipale dans les communes dont le maire serait un insoumis après les prochaines élections. Elle veut aussi supprimer la vidéosurveillance. À part dans sa famille politique, cette proposition ne rencontre que des oppositions. Agir contre l'entrisme islamiste, c'était l'objet d'un conseil de défense réuni à l'Élysée par Emmanuel Macron. Il s'agit de préparer un texte d'ici quelques semaines pour mieux lutter contre les réseaux qui relaient notamment l'idéologie des frères musulmans.
William Molinier.
L'objectif est de rendre transparente la galaxie secrète des frères musulmans qui repose sur une myriade d'associations et de donateurs. Le contrôle des circuits de financement va être renforcé. Le président veut par exemple rendre possible le gel des avoirs des individus soupçonnés de frérisme. Ce mécanisme existait déjà pour les organisations terroristes. Dans le viseur, notamment les influenceurs islamistes qui officient sur les réseaux sociaux, ils pourront se voir par exemple confisquer leurs comptes en banque. Autre avancée, la possibilité de saisir les biens d'une association dissoute, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. En ligne de mire des autorités figurent les élections municipales prévues dans 9 mois. Le droit électoral ne permet pas de s'opposer à une candidature communautaire, reconnaît Emmanuel Macron. En revanche, les préfectures seront encouragées à identifier les profils risqués et documentés par les services de renseignement. Charge ensuite au ministère de l'Intérieur, au cas par cas, de rendre publiques ces informations.
Toujours dans l'actualité en métropole, plusieurs centaines de pompiers sont toujours mobilisés dans l'Aude près de Narbonne. Un important incendie a déjà ravagé 1450 hectares et d'importants moyens restent déployés, explique le colonel Christophe Magny du SDIS de l'Aude.
On est sur un feu important qui, nous, à l'avant du feu, a été très rapide. 500 pompiers engagés avec 200 également qui vont nous renforcer là en transit. Et puis on a 4 canadaires, mais aussi 2 air tractors, 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Ah bah oui, des gros moyens, le feu est toujours hors contrôle.
Et 2000 habitants de la zone ont été confinés chez eux. L'actualité à l'étranger avec la rencontre dans quelques heures entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump, alors que des discussions indirectes ont débuté au Qatar entre les représentants israéliens et ceux du Hamas. Donald Trump compte bien obtenir une trêve dans les tout prochains jours. Il a fait une proposition dans ce sens. Rémi Amalvi est le correspondant d'Europe 1 à Washington.
Le président américain a prévenu, c'est sa proposition finale pour un cessez-le-feu à Gaza. Après ça, il lâche le dossier. Donald Trump a ajouté qu'il se montrerait très ferme lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou dans quelques heures. Il a d'ailleurs déjà annoncé qu'Israël avait accepté les termes de l'accord, une manière de mettre son allié au pied du mur. Ce nouveau cessez-le-feu prévoit un arrêt des combats de 60 jours et des négociations sous l'égide des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Lors de la première phase, le Hamas devra libérer une dizaine d'otages israéliens, puis retourner les corps d'environ 18 autres lors de 2 phases supplémentaires. Dans le même temps, Israël devra se retirer partiellement de la bande de Gaza et laisser entrer l'aide humanitaire bloquée aux frontières de l'enclave depuis plusieurs mois. Bien sûr, Donald Trump ne met pas seulement la pression à Israël, il a averti le Hamas qu'un rejet de cet accord entraînerait, je cite, de graves conséquences. Mais le président américain est confiant, il espère une entrée en vigueur du cessez-le-feu dans les prochains jours.
Il est 11h52, la dernière pause dans ce journal. Avant de voir toute l'actualité sportive, c'est l'avant-dernier jour déjà à Palau pour les mini-jeux du Pacifique. On parlera aussi évidemment de la 3e étape du Tour de France. A tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Le Salon Toyota 2025, du 11 au 13 juillet à la Maison des Artisans. Profitez d'avantages exceptionnels sur les véhicules neufs et profitez également d'un déstockage sur les véhicules d'occasion. Venez découvrir la gamme Toyota et les dernières nouveautés. Alors rendez-vous du 11 au 13 juillet à la Maison des Artisans. Et le Salon Toyota, c'est aussi chez Nord Motors Kone. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Le marché de Boulary vous présente ses nouveaux horaires d'ouverture. Retrouvez-nous du jeudi au samedi de 6h30 à 13h30 et le dimanche de 6h à midi. Avec un tarif exposant journalier de 700 francs à 2100 francs par jour, nous accueillons et accompagnons également tout exposant désireux de venir participer à notre marché municipal. Pour toute information, appelez le 96 0709.
Chez Decathlon, le bleu est plus qu'une couleur. C'est la promesse du meilleur rapport qualité-prix. Du textile aux équipements, découvrez notre large sélection de produits bleus pour tous les sports. Decathlon, le meilleur du sport au meilleur prix.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Le spray nasal décongestionnant pur essentiel dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est la solution naturelle à l'efficacité cliniquement prouvée. Dispositif médical, dès 3 ans, en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, pour soulager tout grasse et tout sèche, découvrez les comprimés tout pur essentiel.
Tout le sport, en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec le sport et direction les Palaou.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux de Palau, on va faire dans un instant le point sur les médailles calédoniennes, des médailles qui continuent d'arriver chaque jour. Les athlètes et les triathlètes ont fait briller la Calédonie entre hier et aujourd'hui. Léana Colombo, ils ont remporté 6 médailles supplémentaires.
Oui, on commence par les médailles d'hier en triathlon. Mélanie Allier a tout d'abord donné le ton en remportant la médaille d'argent au super sprint féminin. Clémence Besson-Léo termine quant à elle 4e pour son premier triathlon international. Chez les hommes, dans la même catégorie, Mathieu Zalamacha et Timothée Hérout remportent respectivement l'argent et le bronze. Mathieu Zalamacha qui évoque des conditions de course difficiles, mais qui se dit fier de son résultat.
Conditions difficiles parce que l'eau elle est quasiment à 30 degrés, donc un peu plus chaud qu'en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Et après c'était aussi surtout difficile stratégiquement parce qu'il y avait un Tahitien qui était loin devant, là, Jean-Marc, qui roulait costaud. Nous on était obligés de faire l'effort pour revenir. Sauf qu'on avait le deuxième Tahitien dans ma roue en l'occurrence, qui restait bien abrité pendant les 20 km. Bah, ça a payé pour eux parce qu'ils démarrent la course à pied beaucoup plus frais que nous. Et bah, c'est mérité, hein. Stratégiquement ils ont été meilleurs. J'ai pas réussi à décrocher le deuxième Tahitien. Et Jean-Marc craque, je pense avec la chaleur aussi. C'était très dur. Avant tout, je retiens le plaisir de concourir ici, d'avoir la chance d'être ici et de porter nos couleurs le plus fièrement possible.
Les triathlètes étaient encore de la partie aujourd'hui avec le relais mixte qui s'est déroulé ce matin à 9h. Et c'est une nouvelle médaille d'argent qui a été glanée par les Cagous. Ils se classent 2e juste derrière Tahiti. Et demain, ils concluront ces mini-jeux avec les épreuves de l'aquathlon. Des médailles ont également été remportées en athlétisme. Jérémia Ngodrella s'empare du bronze sur 400 mètres. Il termine 3e en 48 secondes 91 et égale son record personnel juste derrière deux représentants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Écoutez, une victoire d'autant plus importante que Jérémia Ngodrella était auparavant spécialisée dans la course de demi-fond sur 800 mètres. Un changement de distance qui lui aura réussi. Écoutez son entraîneur Steve Drumini.
Depuis qu'il est installé en métropole, son entraîneur là-bas l'a orienté maintenant sur les 400 mètres. Donc apparemment, sur ce qu'il nous raconte, le travail de 800 mètres et son profil d'origine de coureur de 800 mètres, le sert très très bien et on l'a vu là ce soir, il a une capacité à maintenir la vitesse et surtout à pouvoir maintenir cette vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est ce qui lui a permis d'aller chercher cette belle troisième place et cette médaille encore pour la Nouvelle-Calédonie.
Et s'il y a une athlète qui pourra repartir heureuse de ces mini-jeux, c'est bien Natalia Prado. L'athlète avait remporté il y a quelques jours la médaille d'argent sur le 10 000 mètres. Elle a réitéré son exploit hier en repartant avec l'argent sur le 5 000 mètres en un peu plus de 18 minutes. Elle devance cette fois Natania Chungitan des îles Mariannes du Nord qui l'avait battue sur le 10 000 mètres. Nicolas Cazareru s'est qualifié en demi-finale du 200 mètres avec le 5e meilleur temps. Il sera sur la ligne de départ à 18h30. Pour nous et s'il parvient à se qualifier pour la finale, on le suivra à 20h20. En athlétisme handisport, Jasmine Petitgoût était engagée sur le saut en longueur. Elle termine 4e, une fierté pour son coach Germain Awegeni.
Je suis très content de Jasmine aujourd'hui parce que, pour information, c'est la première fois que le para-athlétisme au Jeux du Pacifique met le saut en longueur et du coup c'est une première pour Jaja et pour moi. Elle a fait un super concours, elle a un record à 3m83. Et comme vous le savez tous, c'est par table de cotation. Elle termine encore 4e. Mais ce sont de belles perspectives pour Tahiti 2027 que nous allons travailler. Et ensemble avec Jaja, on va aller très loin.
Et aujourd'hui, c'est l'athlète handisport Tom Lullet qui participera à l'épreuve de saut en longueur. Ce sera à 20h, heure de Nouméa.
On va maintenant parler des sports collectifs et les Calédoniens, messieurs, en volleyball, en volley indoor, échouent aux portes du dernier carré de la compétition, malgré leur match remporté face aux îles Mariannes du Nord.
Et oui, il faut dire que l'équipe de volley calédonienne a connu des hauts et des bas pendant cette compétition. Les Cagous ont gagné face à Palau 3-7-1, mais perdu contre Tahiti 3-7-0 et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 3-7-1. Christophe Dabin, président du CTOS, salue les efforts de cette jeune équipe.
Les volleyeurs ont fait leur dernier match, c'était le match de classement. Ils ont montré durant ce match vraiment de superbes qualités. Et quand on voit un petit peu ce qu'ils ont pu faire, s'ils avaient eu la même façon de jouer la semaine dernière, ils auraient pu facilement se retrouver en demi-finale. Mais ils ont fait quelque chose de bien avec une vraie cohésion d'équipe et surtout un travail avec avec les jeunes.
De beaux résultats pour cet avant-dernier jour de compétition puisque, je le rappelle, ces mini-jeux du Pacifique s'achèveront mercredi soir. Pour le moment, au classement des médailles, la Calédonie est 7e avec 28 médailles, dont 5 en or, 8 en argent et 15 en bronze. Le classement est toujours largement dominé par la délégation de Tahiti. Suivent ensuite les Samoa et Fidji.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raze automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Kone et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et après Palau, direction Dunkerque.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
C'était cette nuit la 3e étape du Tour de France entre Valenciennes et Dunkerque et on retiendra, Léana, de nombreux suds dans le peloton.
Nous avions déjà eu droit à 2 premières étapes du Tour bien mouvementées. 7 étapes de sprint étaient dans la lignée. La chute la plus malheureuse est certainement celle de Jasper Philipsen au sprint intermédiaire, tombé après un contact avec le sprinteur de Cofidis, Brian Coquard. Victime d'une fracture de la clavicule, le Belge est contraint à l'abandon et perd de ce fait son maillot vert. Brian Coquard s'est exprimé à l'issue de la course et il était très ému.
Sale journée, oui, vous imaginez que faire, abandonner le maillot vert, c'est pas, ça fait pas plaisir. J'ai regardé un petit peu les images. Pour moi, en fait, sur le moment, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, en fait. Vraiment, j'ai même pas l'impression d'avoir touché quelque chose. Je tiens à m'excuser auprès de Philipsen et d'Alpecin, même si je suis pas un mauvais bougre, un mauvais garçon, c'est toujours pas agréable.
Le compatriote de Jasper Philipsen, Tim Merlier, a lui brillé sur cette étape en battant à la photo finish Jonathan Milan. Le coéquipier de Philipsen, Mathieu Van Der Poel, conserve pour le moment le maillot jaune. La 4e étape entre Amiens et Rouen sera à suivre ce soir à partir de 22h35 pour nous.
Et puis l'actualité sportive, c'est aussi le tennis. À Wimbledon, on joue les 8e de finale.
L'américain Ben Shelton s'est défait de l'italien Lorenzo Sonego en 4-7. Il file pour la première fois en quart de finale du tournoi. Le tennisman de 22 ans affrontera le numéro 1 mondial Yannick Sinner. L'Italien était opposé à Grigor Dimitrov, contraint à l'abandon alors qu'il menait 2-7 à rien. Chez les femmes, logiquement, Ludmila Samsonova s'est imposée en 2-7 contre l'Espagnole Jessica Bouzas. Iga Swiatek file elle aussi en quart de finale, tout comme Mira Andriva. La numéro 1 féminine Arina Sabalenka jouera ce soir à 23h30 pour nous, face à la numéro 104 au classement WTA. Laura Singmund.
Il est midi et 2 minutes, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, Infomag se poursuit avec le magazine citoyen consacré cette semaine à la saison des baleines. A tout de suite.